Les psaumes n'ont pas été écrits par des écrivains payés pour cela. Ils ont été écrits par des hommes dans la tourmente, qui savaient lever les regards vers le ciel, vers Dieu, et qui ont expérimenté les secours de Dieu dans les petits détails et dans les grandes tempêtes. Ils ont écrit leurs prières, ils ont écrit leurs cris. Et nous avons 150 psaumes que je comparerai à 150 barques qui nous permettent de passer les torrents difficiles. Ce sont des psaumes qui ne sont pas des recettes infaillibles, le mal est toujours là sur la terre, mais ça nous montre ce que Dieu pense et comment nous devons prier et ce que nous devons attendre. Je lis avec vous psaume numéro 11. Psaume de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire? Il faut bien comprendre David, mais je vous dirai après succinctement, et vous en ressentirez toute la saveur de cette histoire. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, parole de David. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant, ou il déteste le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. David, dans ce psaume, est traqué. Vous savez ce que ça veut dire, traqué par des gens méchants? Autour de lui, il y a tout un complot, un étau qui se resserre. Il est dans ce qu'on appelle une souricière, ne peut plus s'en sortir. Je pense à Anne Frank dans son refuge de la Mansarde en Hollande pendant la traque des nazis tout autour d'elle et qui a fini par être dénoncée par des voisins et de mourir. Je pense à cette petite fille de 2 ans, non, cette petite fille qui avait un peu plus, mais qui est restée 2 ans dans une toute petite cave face au camp d'extermination de Belzec, petite juive nourrie avec des morceaux de pain qu'on laissait tomber à côté de la cave où elle ne pouvait même pas se mettre debout. La traque, la cachette. Mais nous aussi, nous avons des moments où nous sommes traqués. Parfois, la vie s'immobilise. Voilà. La maladie, des imprévus économiques, des imprévus de travail, des imprévus de famille. Hop, la vie s'immobilise. Et ses amis à David, devant cette situation, il est étranglé, lui disent « pars vite comme l'oiseau, l'oiseau pourchassé, pars vite, sauve-toi ». Fuis comme un oiseau. On pourrait traduire fuis en zigzagant, comme la bécasse. Je ne suis pas un chasseur. Et la bécasse, quand elle s'envole, elle fait des zigzags et le chasseur a du mal à la tirer. Fuis rapidement. À cette époque-là, quand dans les villes on avait des invasions, des guerres, en Israël, dans tout le Proche-Orient, on montait sur les montagnes, on se cachait dans les grottes, dans les cavernes. Donc là, les amis disent, tu es cerné de toutes parts, fuis comme un oiseau, va dans la grotte, cache-toi. Nous aussi, nous cherchons des refuges. Parfois, ce sont des refuges trompeurs, parce qu'on a besoin de tranquillité, de se reposer, de se cacher. Fuis, disent ses amis, fuis, parce que les méchants te visent. Ils bandent l'arc. Le méchant te vise. Dans le psaume, le méchant, le vaurien, c'est Satan. La flèche, disent-ils, est déjà sur la corde. C'était un de mes petits plaisirs d'enfant, l'arc. Je visais personne, même pas un lapin, simplement le plaisir de tirer des flèches. La flèche est déjà sur la corde. Ils te visent, ils attendent l'obscurité, dit la Bible. Ils attendent la nuit, ils attendent un moment d'inattention. Ils attendent que tu faiblisses. Quand on faiblit, le mal augmente. Ils attendent que tu sois dans l'ombre et que tu manques de vigilance. Et hop, ils vont tirer. Mais pourquoi vont-ils tirer sur David ? Le roi David, roi de Jérusalem. Un homme au cœur droit. Mais justement, ils vont le viser parce qu'il est droit. Le monde va mal quand même. On appelle bien ce qui est mal, on appelle mal ce qui est bien. Ils vont le viser parce que depuis que le monde est monde, eh bien, on tire sur tout ce qui n'est pas dans le courant du monde. On tire sur tous ceux qui ne font pas partie de la mentalité régnante. Parce qu'aujourd'hui, il y a un chef d'orchestre et quand on n'est pas dans le ton, on est considéré comme des gens à part. Alors on tire sur les croyants, oui. Sur les doux, les humbles, ceux qui s'attachent à Dieu. Mais qui peut tirer comme ça, sinon le méchant, le destructeur ? Jésus disait, le meurtrier dès le commencement, qui s'appelle Satan. Alors en lisant ce psaume, je pense à toutes nos situations où l'on n'a plus de solution, on est pris dans un piège, on est pris sous les flèches même des paroles méchantes, sous les attaques, sous l'arrogance. Et on a comme le vertige, on ne sait plus ce qu'il faut faire, en famille, dans le travail, le voisinage. On a comme un vertige, que faire ? Et regardez David, qui pourtant, dans la Bible, est un homme très fort. Ce n'est pas un gringalet, c'est un homme qui a de la confiance dans Dieu, il a de l'énergie, il s'est battu, il a résisté. Et David, ici, il n'a pas de force. Les croyants n'ont pas toujours de la force, mais ils ont de la foi. Il n'a pas de force devant ces gens. David n'est pas le plus fort. Et ses amis ne le protègent pas. Ils lui disent... Cache-toi, va-t'en. Ils ne le protègent pas. Ils ne lui disent pas, viens chez nous, on va manger ensemble et on va te défendre. Pas du tout. Parfois, le tourbillon est tellement grand qu'on n'a plus d'amis. On se demande qui va nous secourir. D'où me viendra le secours ? La Bible dit dans ce verset 3, les fondements sont renversés. Nous sommes, je crois, dans une époque où les fondements de la vie sont renversés. Je pense qu'on est dans une dictature aujourd'hui. Dictature de pensée, dictature de manière de vivre. Il faut être comme ça. Et nous sommes dans un temps où le croyant même ne peut plus rien faire. Ils disent, les amis de David disent, de toute façon... Quand tout est bouleversé, quand tout est chamboulé, que pouvons-nous faire ? Le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Jésus disait, quand vous verrez tout ça arriver, les bouleversements, les catastrophes, tout ça, Jésus a dit, ne faites pas la révolution, relevez la tête. Votre délivrance est proche. Nous sommes dans un monde qui n'est pas le monde de la lumière. Nous sommes dans le monde du prince des ténèbres. Et même Dieu, quand Lot était dans Sodome et Gomorre et que le déluge commençait, il allait se précipiter, ce déluge sur la ville de Sodome et Gomorre, et le Seigneur a dit à Lot, « Va-t'en, fuis dans la montagne, exactement pareil. » Parce que le croyant ne pourra pas tout changer. Dieu seul a tout entre ses mains. Alors, va-t'en, David, tu es dans le viseur de l'arc. Nous sommes tous dans le viseur du malin. Nous sommes dans un temps trouble. Et je pense que, pour reprendre l'expression de Jésus, que j'aime bien reprendre, le diable est comme un loup qui vient pour voler. Il vient nous voler notre âme. Nous voler notre pureté, notre temps. Il vient pour nous aveugler, dit l'apôtre Paul. Il vient nous aveugler pour qu'on ne voit plus le chemin, qu'on ne voit plus le prochain, qu'on ne voit plus le bon, rien. Et il vient pour ajouter des souffrances à nos troubles. Jésus disait, c'est un meurtrier. Il n'a aucune compassion. On n'a pas besoin de le supplier, il n'a aucune compassion. Il n'a pas un gramme d'amour. Pas un gramme. Donc, tu es dans le viseur. Nous sommes tous dans le viseur. Parce qu'une guerre a été déclarée depuis le commencement du monde. Depuis Caïn, Abel... déclaré contre Dieu. Les chrétiens aujourd'hui sont moqués parce qu'ils représentent une autre façon de vivre, un autre monde, une autre vie, un autre sens. Ils ne sont pas dans l'orchestre, ils sont à côté. Alors, piouf, attention, il y a des flèches qui partent. Fuis comme l'oiseau, l'oiseau voltigeur. Cache-toi dans les montagnes, David. David est choqué. Fuir, moi? Comment pouvez-vous me dire de fuir? Fuir, ça veut dire baisser les bras. Fuir, cela veut dire, en fait, on ne peut pas compter sur Dieu. Il faut se cacher. Fuir, ça veut dire abandonner la maison de Dieu. Se sauver soi-même, se sauver soi-même, comme les moqueurs au pied de la croix de Jésus disaient, sauve-toi toi-même. Fuir, ça veut dire, je vais m'en sortir par mes propres forces. Fuir, ça veut dire se replier sur soi-même, ne pas faire confiance à personne. Fuis dans les montagnes comme un oiseau. Non, David dit non. Je suis cerné, je ne m'en sors pas, je n'ai pas de solution, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne comprends plus rien, mais je ne fuirai pas. Il l'a dit au début, je cherche en l'Éternel mon refuge. Il dit à ses amis, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, et ses yeux regardent, ses paupières sondent les enfants des hommes. Le Seigneur nous sonde. Autrefois, les bateaux jetaient une sonde au fond de la mer pour savoir la profondeur de l'eau en arrivant près des côtes. On sondait. Dieu sonde, ça veut dire qu'il mesure la confiance que nous lui faisons. Il mesure la souffrance que nous vivons. Il mesure l'anxiété, les doutes, il sonde. Il mesure tout ce qui est en nous. Il mesure aussi ce qui est dans le cœur des autres. Et David, ferme, assuré, devant cette traque, ce complot, cette souricière, l'Éternel est dans son temple, l'Éternel est sur son trône. Ça veut dire, j'ai un défenseur qui est hors de portée des flèches, hors de portée des méchants et de ceux qui veulent renverser le monde. J'ai un défenseur dans le ciel, j'ai un protecteur. Voilà ce que dit David. Amen. Il dit, David, Dieu est dans le ciel et dans le temple. Aux deux endroits à la fois. Dans le ciel, cela veut dire il est puissant, il est au-dessus de tout. Il peut tout nous donner. Et dans le temple à Jérusalem, ça veut dire Dieu est tout proche. Je sais où le trouver. Je sais à quelle porte frapper. Je sais où aller. Je sais où habite Dieu, tout près de chez moi. Il est tout fort là-haut et si proche de nous. Je vais vous dire un secret. Je ne connais pas Dieu dans ce qu'il est en lui-même. Qui est-il? Comment est-il? De quoi est-il fait? Je prends des mots simples. Je ne connais pas le fond, la nature de Dieu. On ne sait pas. La seule chose que nous savons, c'est que Dieu est en relation avec nous. Il nous aime, il nous entend, il nous voit, il nous sonde, il nous pèse. C'est la seule chose que nous savons. Sur lui-même, comment est-il? Je prends des expressions pas trop triviales. De quelle couleur est-il? Quelle est sa taille? Non, on ne sait rien. Mais on sait qu'il est en relation d'amour avec nous. Il y a donc deux maisons. Une dans le ciel, où il habite, et une sur la terre, où il habite. Deux. Moi, j'ai qu'une maison. Dieu avait dit autrefois, quand vous serez captifs, quand vous serez dans les conflits, quand vous serez dans les guerres, quand vous serez dans les famines, quand vous serez malade, malheureux, triste, vous vous tournerez vers le temple de Jérusalem et vous prierez. Et quand vous serez tourné vers le temple, je vous répondrai du ciel. C'est pas rien le temple de Jérusalem, il n'existe plus. Je pense à Jonas au fond de la mer, Jonas qui coule et qui prie et qui dit « Je me suis souvenu du Seigneur et ma prière est parvenue jusqu'à son saint temple. » Ce qui veut dire que dans le temple de Jérusalem, Dieu entendait la prière de Jonas et Dieu a envoyé un secours du ciel. Où habite Dieu aujourd'hui? Dans le ciel, mais sur la terre, où? Où est sa maison? Aucune maison peut le contenir. Même les cieux très hauts, très loin, sont incapables de tenir Dieu. Dieu est plus grand que tout ce qui existe, que tout ce qu'on imagine. Alors il habite dans un endroit, sur la terre. Il habite dans le Christ. Dieu est dans le Christ, totalement. Et quand on voyait le Christ, on voyait le Dieu d'amour, le Dieu patient, le Dieu pardonnant. Et le Seigneur sur la terre, il marche toujours avec nous, il s'appelle Jésus-Christ. Tournons-nous vers lui. Donc le Seigneur regarde, dit à David, il sonde, il n'est pas indifférent au désordre du monde. Il n'est pas indifférent à tous les fondements de la vie qui sont renversés. On attaque la vieillesse, on attaque les fœtus, on attaque tout. On attaque le mariage, on attaque la famille, on attaque la pureté, la droiture. Tout est attaqué, tout. Depuis une quarantaine d'années, il me semble qu'une vague mystérieuse d'eau monte et passe sous toutes les portes des maisons, pour ne laisser derrière elle que de la saleté, des doutes, des rien du tout. Une vague monte, mes amis. Les fondements sont renversés. Et à la place, individualisme, suffisance, plaisir, incroyance. Ça va mal, hein ? On ne peut pas dire tout est rose, tout est beau, tout est gentil. Il faut regarder le monde et le regarder comme Dieu le voit. Ses paupières sondent les enfants des hommes. Alors David dit, mon Dieu est dans le ciel, mon Dieu est sur la terre, je sais à qui m'adresser, je sais où aller. Et David ajoute, de toutes les façons, le Seigneur déteste les gens mauvais, ceux qui sèment le désordre et qui ébranlent la vie. Et David ajoute une parole, on n'est pas habitué à ça, hein. Le Seigneur fait pleuvoir des charbons, on peut traduire des pièges. Ceux qui font le mal ont des pièges sur leur vie, ont des pièges sur leur parcours. Il fait tomber des charbons, des pièges, du soufre, du feu. Je pense à Sodome et Gomorre, dont le péché de Sodome et Gomorre était aussi l'insouciance, l'insouciante sécurité. À Sodome et Gomorre, on ne soutenait pas la main du malheureux, on se moquait des malheureux. On était très orgueilleux. Et quand un monde ne soutient plus le malheureux, quand un monde se détache de la sécurité que Dieu seul donne, il y a un péril. Sodome et Gomorre en est l'exemple. Pourquoi Dieu envoie, David dit, il envoie du charbon, des pièges, hein, il envoie des pièges, il envoie du feu, du soufre, un vent brûlant, mais pourquoi Dieu n'est pas concerné? C'est David qui est concerné. Quand on touche à un être humain, on touche à Dieu. Quand on touche à David, on touche à Dieu. Quand on touche aux croyants, on touche à Dieu et Dieu répond, répondra, futur. Dieu n'est pas indifférent à ce que vous souffrez. Flèches qui sont prêtes à vous faire mal. Imaginez un père qui a un enfant, évidemment, il a un enfant, mais un enfant unique. Il voit son fils dans la rue, battu à mort par des vauriens, battu à mort. Et le père dit, je ne veux pas vous blesser, vous pouvez y aller. Je ne veux pas vous choquer, vous traumatiser. J'ai beaucoup d'amour, vous pouvez y aller. Frappez, parce que je ne veux pas vous contrarier. Un père, ça retrousse ses bras, ses manches. Comment vous touchez à mon fils? Vous le battez à mort? Dieu est un père qui nous défend, qui nous voit, qui est une sécurité pour nos familles et qui enverra un jour un jugement. Les modernes n'aiment pas écouter le mot « jugement dernier ». Au temps de l'apôtre Paul, déjà, quand il parlait de jugement dernier, on disait « oh, arrête, stop, coupe !» Parce qu'on disait le jugement dernier... Non, on n'aime pas ça. Mais les apôtres prêchent en disant « Dieu jugera les vivants et les morts par celui qu'il a établi comme sauveur et juge, Jésus-Christ. Jésus jugera. Aujourd'hui, il se propose à être votre sauveur. Demain, il sera le juge. » Alors, mes amis, le message de ce psaume, c'est celui-ci. Dans un entourage, un environnement difficile aujourd'hui, hostile, le Seigneur donne de la foi et de la force. C'est, je crois, le résumé de l'Apocalypse. Les gens disent, l'Apocalypse, oh, c'est terrible. Mais le monde, c'est terrible. Et dans l'Apocalypse, je pourrais résumer... Dans ce monde qui chasse, qui chancelle, qui vacille, qui va mal, il y a un Dieu qui est là pour nous dire « Je te garderai. Je te garderai au moment du trouble, de l'épreuve, qui sera sur le monde. Nous allons bien, il ne faut pas se plaindre, on sort dans la rue, à moins d'un chauffard. On n'est pas en Syrie, on n'est pas en Égypte, on n'est pas au Pakistan. Mais quand les gens passent par ces moments terribles de la politique, de l'histoire du monde, comprennent les paroles que je dis aujourd'hui, dans un environnement hostile, Dieu donne à ceux qui le craignent, qui l'aiment, de la force et de la foi pour tenir. Le psaume 11, c'est David qui dit « Je ne bougerai pas, parce que Dieu est mon refuge, Dieu est mon abri, j'ai confiance en lui. » Derrière le psaume, voyez-vous, j'ai pensé à une image magnifique. C'est Jésus dans la barque est secouée, secouée, comme vous peut-être aujourd'hui, comme le monde d'aujourd'hui, la barque est secouée. Les apôtres crient, nous sommes perdus, nous sommes perdus, nous sommes perdus, on ne sait plus où aller. Jésus est là. Et il leur dit, ne craignez pas, c'est moi, n'ayez pas peur, je suis avec vous. C'est le psaume 11. Tourbillon, on ne sait plus quoi faire, et Jésus dit, je sonde tout, je connais tout, je tiens tout, je te défendrai. Les apôtres, eux, quand Jésus a été pris par la milice pour être crucifié, les apôtres ont fui comme l'oiseau. Ils ont voltigé, tous comme les oiseaux. Mais non, mes amis, ne les imitons pas, là. Je pense que nous recevons du Seigneur dans les temps que nous vivons. Et peut-être que cette semaine, quelqu'un a connu quelque chose de très dur à vivre, sentimentalement, physiquement. On est comme David, l'arc est tiré, la flèche est prête, le méchant nous vise, on ne sait plus quoi faire. J'aimerais vous dire, nous recevons aujourd'hui, en se tournant vers le Christ, la confiance, la foi, la force, la paix, pour ne pas baisser les bras. Ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais plutôt regarder le visage du Seigneur. Les hommes droits contemplent sa face, son visage. Faire confiance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Amen. C'est un Dieu qui défend. C'est un Dieu qui sauve. C'est un Dieu qui nous environne. C'est un bouclier qui nous entoure de partout. Une expression des psaumes dit « Tu es mon bouclier ». Cela veut dire, tu m'entoures partout. On n'a jamais fait des boucliers pour entourer partout. Dieu nous entoure de partout. Confiez-vous en lui. Je prie le Seigneur pour vous. Je prie. Seigneur, dans nos situations d'aujourd'hui, où nous ne savons ce qui arrivera demain, et pour chacun de nous personnellement, nous ne connaissons rien de l'avenir, et nous sommes parfois dans un traquenard, dans une impasse. L'espérance nous manque parfois. Nous voulons relever la tête et regarder vers toi. Tu es sur un trône et tu es si proche de nous. Ton trône, c'était la croix aussi. Tu t'es approché du brigand pour le sauver dans sa situation sans issue. Tu t'approches de chacun pour nous dire « Ne crains pas, crois seulement. Je suis avec toi chaque jour. » Tu t'approches pour mettre tes mains sur nos mains et pour souffler sur nous un souffle de vie, de réconfort, un souffle qui nous permettra de dire comme David, « Le Seigneur est sur son trône, le Seigneur entend. » Connais mon cœur, je reste avec toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.